Il y a dans la Bible, eh bien, des femmes et des mères qui sont mentionnées et des personnages qui intègrent à part entière le plan du salut. C'est pas seulement une histoire de gars, hein, c'est une histoire de sœurs aussi. Et leur place est évidente. Parce que déjà dans le jardin d'Éden, quand Dieu a parlé à Satan, rappelez-vous ce qu'il lui a dit. Je mettrai l'hostilité entre toi et pas l'homme, toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance, et celle-ci, donc la descendance, merci Jacques, la descendance donc de celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Vous savez, dans l'Ancien Testament, la généalogie passait par les hommes. Et là, c'est curieux, la première prophétie que Dieu donne à l'humanité et qu'il l'envoie donc dans la figure de Satan concerne la femme, la descendance de la femme. Et en voyant comment Jésus est venu dans ce monde, on comprend la place d'une femme dans le plan du salut. Bien sûr, il y a eu Sarah, femme d'Abraham, Léa, et puis Matthieu mentionne Tamar, au temps de Judas, donc, fils de Jacob, et puis Rahab, Ruth, et puis au bout de cette chaîne, celle qui va accomplir cette extraordinaire prophétie, eh bien, ça va être Marie, la mère de Jésus. Alors aujourd'hui, on va parler de cette femme qui attend à nous apprendre. D'ailleurs, je ne sais pas pour vous, mais quand on témoigne, quand on partage avec quelqu'un, il dit, ah, mais vous êtes quoi? Quand on dit on est protestant évangélique, première question, et Marie? C'est exceptionnel, hein? Eh oui, et vous savez ce que Marie a dit, hein? Faites tout ce qu'il vous dira en parlant de son fils. Voilà ce qu'on répond. Donc, ce matin, eh bien, nous allons parler de cette femme exceptionnelle, hein? Alors, malgré les risques qu'elle a encourus en tant que jeune fille fiancée, elle n'a pas reculé devant la mission que Dieu lui confie, hein? Et cet enfant qui est en elle, qui va devenir le sauveur de l'humanité, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? À l'annonce de l'ange, elle a répondu, hein, Marie dit, hein, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Oh. Moi, je discute beaucoup avec Dieu avant d'en arriver là, hein, je vous le dis, hein. Ah. Ému. Et engagée avec Dieu, à l'image d'Abraham, père de la foi, elle fait confiance en Dieu en ce qui concerne son avenir, ses projets personnels, sa vie. Elle remet tout entre les mains de Dieu. Et en lisant l'évangile de Luc, il y a une expression qui revient deux fois au début. Et cette expression, m'a interpellé sans doute. Vous aussi. Et j'aimerais me baser sur ça pour nous laisser conduire dans la méditation de la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 2, au verset 16, quand les bergers allèrent en hâte, après que l'ange leur est apparu, eh bien, ils trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Mais Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et quelques versets plus loin, c'est-à-dire 12 ans plus tard, eh bien, nous retrouvons cette pensée que le Saint-Esprit a gardée. Sa mère Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. Deux fois répétées dans le même chapitre, Marie gardait et repassait toutes ces choses dans son cœur. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien garder dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle conservait? Alors, on conserve quelque chose qu'on ne veut pas perdre. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et pour ne pas perdre, on entretient, on protège, on prend soin et on perpétue. Et c'est ce que Marie faisait. Elle conservait et gardait toutes ces choses dans son cœur. Cela ne se voyait peut-être pas extérieurement, parce que c'est dans le cœur. Cela n'était pas accessible aux autres, parce que ça se passe dans le cœur. Car c'est en soi qu'on garde, à l'intérieur de soi. On peut y voir ici, comme certains l'ont vu, eh bien que Marie a été le témoin direct dont Luc a consigné ces histoires. Parce qu'en réalité, ce qu'il y a dans le cœur, on doit le partager pour que ce soit connu. Et que lorsque Luc a fait son enquête pour constituer l'évangile, eh bien elle a dit, voilà ce qu'il y avait dans mon cœur, voilà comment ça s'est passé. Et Luc a dû dire, mais qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, j'ai conservé cela dans mon cœur et je me suis repassé et repassé ces scènes. Mais que conservait-elle dans son cœur ? Hein ? Elle gardait et repassait dans son cœur tout ce qui était précieux pour elle. Et qu'est-ce qu'il y avait de plus précieux pour Marie que son propre fils, Jésus ? Ah, bien sûr, vous allez me dire, mais c'est le cas de toutes les mères, hein ? Oui, les mamans en général gardent les petits souvenirs, elles gardent les petites paroles, les petits gestes de leurs enfants. Enfin, elles peuvent même vous citer, si vous les prenez, interro surprise, la date de naissance de tous les enfants. Nous, les gars, on est un peu paumés, hein. C'est vraiment la question que je redoute. Vous avez des enfants, oui, quel âge ont-ils? Quand est-ce qu'ils sont nés? Ah, quand ma femme est à côté, chérie, c'est quoi la date de naissance déjà? Eh oui, hein. Une maman est une maman, c'est son cœur maternel, c'est son attitude. On pourrait dire que Marie est une maman comme les autres. Mais pour Marie, c'était quand même différent. Elle connaissait l'origine de son enfant si particulier. C'est Michée qui a dit ceci concernant Jésus. Il est celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. C'est quand même un enfant très particulier. Alors les souvenirs devaient remonter et lorsqu'elle devait être dans la synagogue où elle écoutait la loi, les prophètes et les psaumes, elle devait connecter les paroles qu'elle entendait à cet enfant qu'elle a eu. Elle gardait et repassait les propos de sa parenté, sa cousine Élisabeth. Elle devait, lorsque les bergers sont venus, qu'ils lui ont raconté, elle devait repasser dans son cœur ce que l'ange lui avait dit 9 mois auparavant. Ah, c'est donc ça. Elle a dû repasser dans son cœur et garder ce que Anne et Siméon ont pu dire lors de la présentation de Jésus au temple. Et puis l'histoire racontée par les mages. Et vous savez, quand on a un tel trésor dans son cœur, eh bien on voit les choses d'un jour nouveau. Lorsque les autres parlaient de politique à Marie et de la domination de Rome, elle devait repasser dans son cœur que cette domination allait finir et que la domination de cet enfant allait s'étendre sur le monde. Lorsqu'elle, les gens lui parlaient de violence humaine, elle s'est dit, mais celui-là va résoudre par sa paix toutes ces questions. Oui, Marie conservait et gardait toutes choses dans son cœur. Elle gardait dans son cœur ce bien précieux concernant toutes les affirmations sur la véritable nature de son enfant. Oh, il ne s'agit pas de flatter l'orgueil légitime d'une maman, n'est-ce pas ? Mais il est là question de connaître mieux Jésus. Elle était là pour dire, c'est le plus beau, nos enfants sont les plus beaux, n'est-ce pas ? Hein ? Automatiquement. Mais celui-là quand même, il était différent. Et son désir était de mieux le connaître. Mon frère, ma sœur, qu'y a-t-il dans nos cœurs ? Que reste-t-il dans nos cœurs ? Que gardons-nous dans tout ce que nous entendons sur Jésus ? Dans ce que nous lisons sur Jésus, dans ce que nous méditons sur lui ? Gardons-nous cela dans nos cœurs? Cherchons-nous à comprendre le sens? Est-ce que connaître Jésus est pour nous notre plus grand désir? Comme l'apôtre Paul le dit, de manière très claire, et même, dit-il, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et il ajoute, mon but est de le connaître, lui. Sommes-nous envahis de ce sentiment? Mon but est de le connaître, lui. Le Seigneur avait confié à Marie une grande tâche. Elle le savait. C'est toujours une grande tâche pour les parents que d'avoir des enfants et de les élever. Quand on est grand-parent, on est plus content, hein. Eux les élèvent et nous on les gâte, n'est-ce pas? Eh oui. Mais Marie, comme Joseph, devait donc veiller dans leur conduite à être conforme à la pensée et à la volonté de Dieu pour élever Jésus. Il fallait un cœur capable et de garder et une oreille capable d'écouter. Et on le voit, ils l'ont fait. C'est sur l'ordre de Dieu qu'ils ont nommé cet enfant Jésus. Dieu sauve. Sur l'ordre de Dieu qu'ils sont partis en Égypte. Sur l'ordre de Dieu qu'ils sont revenus en Israël. Sur l'ordre de Dieu qu'ils se sont installés à Nazareth. Certainement, Marie était sensible à la voix de Dieu. Elle savait que c'était là le chemin sur lequel il y avait la lumière de Dieu. Et que si elle s'en écartait, eh bien elle s'écartait de ce que Dieu voulait. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que nous gardons? Qu'est-ce que nous repassons? Qu'est-ce quand nous découvrons des versets qui nous parlent, des passages bibliques qui nous touchent? Nous sommes appelés à les garder afin de ne pas nous en écarter. Vous savez, et l'Écriture le dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nos jours, je le crains, sont et seront de plus en plus sombres. Ce monde s'assombrit, les positions se durcissent et se radicalisent. Et nous avons plus que besoin d'une lampe qui brille à nos pieds, afin de nous éclairer sur le chemin du Seigneur. Oh oui. Oh, comme nous avons et nous essayons souvent par nos propres forces de diriger les choses. Nous voulons même diriger la vie de nos enfants, ça arrive, selon nos principes, nos idées, sans être à l'écoute de la volonté de Dieu. Apporter notre propre lumière avec nos directives. Marie, elle gardait et elle conservait ces choses dans son cœur pour pas s'en écarter. Et puis, il y a un autre contexte où elle a dû garder et conserver cela, les méditer. Alors c'est lors d'un pèlerinage à Jérusalem. On amène Jésus, il a 12 ans. Et puis voilà, il y a les amis, il y a les voisins, il y a la parenté. Et sur le chemin retour, au bout d'un moment, ils disent, tiens, où est-il passé, ce Jésus? Peut-être est-il avec tel ou tel groupe. Alors, on n'est pas inquiet au début, et puis on commence à le chercher. Et puis, Marie et Joseph voient l'inquiétude monter. Ils questionnent. Et puis, ils se disent, ah, on l'a peut-être laissé là-bas. Aïe, 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 pour des grands-parents, pour des parents, c'est pas terrible, hein. Et la Bible nous dit ceci, quand ses parents, donc Marie et Joseph, le virent, donc, à Jérusalem, au temple, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et Jésus leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Ah! Par cette réponse, en réalité, Jésus leur montre qu'il était avant tout dépendant de son vrai Père, de Dieu. Cette réponse devait aussi préparer le cœur de Marie à comprendre que Jésus était fait pour une grande mission. Une petite piqûre de rappel, comme on dirait. Il était l'envoyé du Père Céleste. Elle avait conservé cet épisode dans son cœur. Et on peut appeler cela l'épreuve du renoncement. Une épreuve qui va jalonner la vie de Marie jusqu'à la fin. 18 ans plus tard, Jésus avait environ 30 ans, est invité, ou il s'invite avec ses disciples aux noces de Cana. 18 ans plus tard. Alors les organisateurs manquent de vin. Si vous manquez de vin, vous savez, faire appel à Jésus. Hein. Et puis ici, il y en a une qui peut l'influencer, sa mère. Et puis que fait sa mère? Eh bien, elle s'adresse à Jésus. Il manque de vin. Et que répond Jésus? Merci maman pour l'information, on va arranger ça. Eh non. Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est pas sympa, hein? Oh. Hein? Surprenant, n'est-ce pas? En tant que mère, elle avait quand même des privilèges. Hein? N'importe quel enfant devrait prendre le temps d'écouter sa maman. Elle l'avait nourri, elle l'avait changé, elle l'avait élevé. Quand même, on ne répond pas comme ça à sa mère, même à 30 ans. Ça paraît tellement normal. Il est bien là un malheur que nos temps connaissent et dont l'apôtre Paul rappelle deux fois aussi dans Romains et Timothée que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Ah oui. Alors d'un point de vue biblique, l'homme ou la femme qui n'honore pas son père et sa mère ne peut pas espérer être entendu dans ses prières. Il viole ici un commandement. Mais honorer ne veut pas dire répondre à toutes ses exigences. Honorer ne veut pas dire que nos enfants, quand bien même nous les aimons, doivent être toujours d'accord avec nous, même si nous avons toujours raison. Eh oui, c'est bien là ce que Jésus souligne. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi? Parce que mon heure n'est pas encore venue. Marie devait ici renoncer à l'influence sur son fils. Elle a dû apprendre que Jésus ne lui appartenait pas. Ah, ça c'est difficile, hein, surtout pour les mamans, hein. Mais qu'il était là pour accomplir une œuvre beaucoup plus grande et sauver le monde. Mère, chère mère, encouragez vos enfants à chercher la volonté de Dieu pour leur vie, même si cela ne nous arrange pas, même si cela est un renoncement pour nous. L'important, c'est qu'ils fassent ce que Dieu a pour eux. Alors Matthieu, lui, nous rapporte un autre incident. Même si c'est jamais facile et inconfortable le renoncement, Matthieu va aller encore un peu plus loin. Et je trouve que là aussi, quand on lit de manière superficielle, on ne comprend pas la pensée de Jésus. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et ils cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils cherchent à te parler. Ah, c'est l'émissaire qui a envoyé, dit à Jésus qu'on veut lui parler. Que dit la suite de l'histoire? Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, cela, qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et leur dit, voici ma mère, voici mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-ci est mon frère, ma sœur et ma mère. Oups, c'est pas sympa, hein? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne va pas interrompre son enseignement et dire, attendez, il faut que je m'occupe de ma mère et de mes frères. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au lieu de ça, il interrompt l'élan de Marie. Il efface toute illusion. Ce qu'il dit finalement, c'est que le lien du sang ne peut accorder aucun privilège devant le trône de Dieu. Ça peut nous surprendre, et quelque part, heureusement. Nous pouvons être issus d'une longue famille chrétienne, nous pouvons avoir fréquenté l'Église depuis le culte de l'enfance jusque dans les camps. Nous pouvons revendiquer nos ancêtres comme des chrétiens modèles. En réalité, mon frère, ma sœur, ni la chair ni le sang ne peuvent nous octroyer aucun privilège spirituel. Seul le chemin de l'obéissance nous ouvre ses portes. Et c'est valable aussi pour Marie. Seule la foi reste valable. En effet, dit Jésus, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Bien sûr, Marie n'était pas dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu quand elle a voulu s'approcher de Jésus. Mais elle a dû apprendre devant cette porte, la porte de cette maison et devant tous, que si elle souhaitait être en communion avec son Fils, elle devait se conformer à la volonté de Dieu. Quelle difficile leçon pour une mère. Marie conservait toutes ces choses dans son cœur, et je pense qu'elle a dû conserver aussi cette histoire. Après, il y a eu un renoncement encore plus dramatique, l'ultime épreuve qu'elle a gardée certainement dans son cœur. Vous vous rappelez, quand elle était dans le temple, elle venait présenter Jésus et Siméon. Siméon, quand il a pris l'enfant, il dit « Voici, cet enfant est là, pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et comme un signe qui provoquera la contradiction. » Et toi-même, en pointant Marie, il lui dit « Une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup soient révélées. » On a du mal à s'imaginer ce à quoi Marie devait se préparer. Quelle dure épreuve que de voir un fils qu'elle a porté, qu'elle a entouré de tant d'amour, le fils dont elle a vu faire les premiers pas dans ce monde qu'il a créé, être jeté en pâture aux hommes qu'il a aussi créés. Voici son fils bien-aimé qui a dû affronter la croix, ensanglanté, qui a été rabaissé par la haine des hommes. Voici une foule qui est là, qu'elle a vue, une foule présente de moqueurs. Entendre ces soldats l'injurier, les passants blasphémer. Quelle douleur pour une mère de se sentir totalement impuissante face à ce qui se passait. À ce moment-là, son fils lui était totalement repris. À ce moment-là, la séparation devenait brutale. Et là, nous avons une attention quand même particulière de Jésus. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, lui dit Jean l'évangéliste. Jésus, voyant sa mère, est debout auprès d'elle. Le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, dit à sa mère, « Voici ton fils. » Et Jean, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Il ne dit pas, maman, voici ton fils. Il ne dit pas, mère. Il lui dit, femme. Femme, pourquoi? Jésus, qui a tant consolé les cœurs meurtris, a encore un souci pour sa mère. Et ses paroles restent quand même bienveillantes, puissantes, comme un baume dont il veut couvrir le cœur et les blessures de Marie. Mais en réalité, à la croix, Jésus n'est pas le fils de Marie. À la croix, il est le fils de Dieu. D'ailleurs, le centurion a dit, cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, même à la croix, comme il l'est de toute éternité. Ce n'est plus Jésus le Fils de Marie qui meurt, mais c'est Jésus le Fils de Dieu qui meurt pour toi, pour moi, pour ce monde et pour Marie aussi. Sa mort a été comme une épée qui a transpercé l'âme de Marie. La séparation s'est faite. Elle a opéré cette épée une blessure profonde et difficile. Et vous savez quoi? Je pense qu'à ce moment-là, elle devait garder, conserver, se rappeler toutes les choses qui concernaient son fils. Alors, en tournant les pages de la Bible, la dernière fois où nous entendons parler de Marie, eh bien, c'est au tout début du livre des Actes. Il est écrit « Tous d'un commun accord, persévérez dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Et il est intéressant de voir l'attitude de Marie. Que voyons-nous? Nous la voyons en train de prier avec tous les disciples. Jésus a montré sa puissance par sa résurrection. Il a montré que chacun peut devenir une créature rachetée devant Dieu. Et là, on a l'impression qu'elle se positionne ainsi. Une créature rachetée devant Dieu, qui prie avec les autres. Cela nous montre quand même qu'elle ne voulait pas occuper une place importante. On la voit particulièrement humble. Oh, elle aurait pu se vanter, non? Hey, c'est moi la maman. C'est moi la maman. Elle aurait pu se vanter. Et elle aurait pu, sans problème, revendiquer sa place aux yeux de tous. Et pourtant, elle est avec tous, dans une position humble de prière. Pour moi, Marie est un modèle remarquable, parce que nous voyons en elle aucune susceptibilité. Mes frères et sœurs, lorsque l'orgueil vient monter, prendre place dans nos cœurs avec ses revendications, est-ce que nous y prenons attention? Est-ce que nous revendiquons notre place comme étant celui qui est de fait notre place? Vous savez, j'aime beaucoup la question que pose par deux fois Dieu à Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Ah, ça c'est une question, hein. Fais-tu bien de t'irriter? Hein? Fais-tu bien dans ton cœur de t'irriter? Fais-tu bien dans ton cœur de laisser l'orgueil prendre cette place? Fais-tu bien de t'inquiéter? Fais-tu bien de rester en colère? Fais-tu bien de douter? Quels sont les domaines qui envahissent tes pensées et ton cœur? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu repasses? Et qu'est-ce que tu ressasses? Quelle leçon d'humilité dans l'attitude de Marie. Au milieu des disciples, en aurions-nous fait autant? Aurions-nous accepté une position si humble devant les hommes? Marie qui, en tant que modèle, j'allais presque dire comme nos mères et nos sœurs, qui, je pense, et je le dis tant de fois, ont été modèles pour moi dans leur attitude et qui m'ont rappelé qu'il fallait regarder au Seigneur constamment. Alors, lorsque nous découvrons Marie dans l'évangile de Luc, et ce sera ma conclusion, comme dans le livre des Actes, nous voyons une chose de surprenant. Dans le livre de l'évangile de Luc, quand elle reçoit le message de l'ange, comment elle est? Elle fait une magnifique prière. Marie prie. Et dans le livre des Actes, 30 ans après être passée par les épreuves, les difficultés, comment est-ce qu'on la trouve? En train de prier. Nous la voyons en paix, adorant et priant. Mais pour prier et adorer réellement, ne faut-il pas conserver les bonnes choses dans nos cœurs, plutôt que les mauvaises? Les repasser régulièrement et se souvenir, comme Étienne ce matin nous a rappelé, nous souvenir des merveilles de Dieu. Nous avons tellement l'habitude et le réflexe de baisser les yeux sur terre et de voir ce qui ne va pas. Que le Seigneur nous accorde le pouvoir de mener une vie qui le glorifie en marchant humblement pendant notre pèlerinage terrestre. Et que le Seigneur nous permette de laisser nos cœurs être imprégnés de sa fidélité dans l'accomplissement de sa parole. Amen.